morning edition from NPR News.
Let's eat in San Peter House.
France Inter, le 18-20.
Si tu m'aimes vraiment, ne me like pas sur Facebook. Ce soir, nous sommes dans l'enfer numérique grâce à Guillaume Pitron et son livre. Et vous verrez que contrairement à ce qu'on nous raconte le plus souvent, quand on dématérialise, quand on arrête le papier et les intermédiaires, eh bien c'est un monde très très matériel et très très polluant qui se met en branle. Est-ce que vous savez qu'une puce électronique, c'est 16 000 sous-traitants? On en parle dans un instant. Le bruit du monde ce soir est en Italie. On vendange, c'est la période. Et vous apprendrez que le premier producteur du monde en volume, c'est l'Italie. Et aussi celui qui produit tous les plans qui servent à créer nos vignes et nos vins. Le bruit du monde, la suite. Sous les radars, Sébastien Legénie a trouvé un boxeur philippin qui fait de la politique, des étudiants à Istanbul qui dorment sous les ponts et une toute petite vache. 18h50, le cinéma en VO et en vert ce soir avec 5 documentaires écolo à voir. 18h55, le monde d'après et Claude Guibal ou comment l'Afghanistan voit gonfler à nouveau les prix de l'opium. Le monde est vasté, on n'a qu'une heure, bonsoir.
Fabrice Sintès. Un jour dans le monde.
Bonsoir Guillaume Pitron.
Bonsoir Fabienne Sintès.
Vous nous avez déjà ici même ouvert les yeux et fait peur même avec les métaux rares, votre ouvrage précédent qui nous montrait les conditions d'extraction des graphites, cobalt, iridium, platinium et autres, platinoïdes, etc. Cette fois-ci avec l'enfer numérique, vous nous montrez combien tout ce qu'on qualifie de dématérialisé est en fait très 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 matérialisé et très très énergivore. En chiffres, les technologies digitales mobilisent, dites-vous, 10% de l'électricité produite dans le monde et 4% des gaz à effet de serre. En refermant votre livre, je me suis demandé si j'avais pas plutôt intérêt à prendre l'avion, à aller sonner chez ma copine Judith qui habite aux États-Unis, plutôt que d'échanger avec elle sur WhatsApp ou sur Facebook.
Si vous passez par Zoom, une application Zoom, plutôt que d'aller à New York pour une réunion, quand même, l'impact écologique d'une application Zoom sera infiniment moindre, et c'est là aussi que le numérique a un impact positif sur l'environnement. Après, passer cette comparaison-là, ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes nos vies sont numérisés partout. Tout ce que nous avons finalement dans la vie quotidienne, dans le monde réel, a souvent un impact dans le monde virtuel. Et il faut comprendre que toutes ces interactions numériques qui ont été accélérées par le Covid, bien évidemment, on était très content d'avoir le numérique pendant cette période-là, multiplié par le nombre d'objets connectés, multiplié par le nombre de services numériques qui nous sont offerts sur nos téléphones portables, tout cela génère un impact qui est de plus en plus lourd. Et il y a un moment où le risque se pose que les bienfaits écologique du numérique soit contrebalancé, voire dépassé par le coût précisément écologique de ce numérique.
Ce que je comprends en vous lisant, c'est que au fond, il n'y a pas de virtuel en fait. On nous parle de virtuel, mais il n'y a pas de virtuel.
Le virtuel, je pense que c'est un grand récit actuellement, le grand récit du capitalisme pour nous convaincre que nous allons pouvoir continuer à consommer, à nous enrichir, mais sans impact sur la planète. Or, en fait, cette virtualité, c'est un leurre, c'est un mythe, ça n'existe pas. Tout est matériel, et quelquefois même plus c'est virtuel, plus paradoxalement c'est matériel. Et en réalité, il faut bien avoir conscience que tout cela, eh bien, ça vient poser, questionner la question des limites physiques de nos écosystèmes, de la planète Terre, quand même on parle d'une technologie aussi évanescente soit-elle que le nuage.
Votre livre s'appelle L'enfer numérique, voyage au bout d'un like. Oui. Et du coup, je vais le lire, le passage sur le like, parce que effectivement, il est extrêmement parlant et presque terrifiant. Donc, vous parlez de ce voyage à travers les 7 couches de fonctionnement d'Internet, et vous dites la 7e couche correspond à votre terminal, donc l'ordinateur, par exemple, puis votre notification amoureuse, puisque là, en l'occurrence, il s'agit de ça. C'est enfoncé dans des strates intermédiaires du net, la couche liaison, la couche réseau, la couche transport, jusqu'à atteindre la première couche physique d'Internet composée de câbles sous-marins. Entre les deux, la notification empruntait l'antenne 4G d'un opérateur mobile, d'une box Internet, glissée le long des parties communes de l'immeuble pour atteindre des tuyaux en cuivre, enfouie 80 cm sous les trottoirs. Elle a parcouru des câbles qui filent le long des grandes voies de communication, donc les autoroutes, les voies ferrées, etc. Pour rejoindre d'autres likes dans les locaux techniques de l'opérateur, il a ensuite fallu traverser les mers, transité par un centre de données dans les tréfonds du net, et le like a enfin pris le chemin donc qu'il comptait avoir. Ça veut dire que si je vous envoie un like, là, Guillaume Pitron, à vous qui êtes à 1m50 de moi, il aura fait tout ce chemin.
Il aura fait des milliers de kilomètres. Et en fait, pour une action aussi simple, aussi bénigne que celle de liker le profil du voisin, en réalité, je mobilise au quotidien, puisque moi-même j'ai un compte Facebook, donc je like sur Facebook, je suis plein de paradoxes, une infrastructure qui est en passe, selon Greenpeace, de devenir la plus vaste infrastructure que l'homme n'est jamais construite de son histoire.
Mais alors, on nous parle de décroissance, on nous vend plus de vêtements d'occasion, etc. Est-ce que vraiment la décroissance numérique, on appelle ça la sobriété numérique même, est-ce que vraiment elle est possible? Parce que ces outils désormais sont nos vies. Regardez, on n'a plus le droit quasiment de payer nos impôts en dehors de le faire sur Internet. On ne peut plus le faire sur papier. On ne peut plus consulter son compte en banque ailleurs puisqu'on ne reçoit plus de papier. Et si on ne reçoit plus d'ailleurs, c'est qu'on nous a dit c'est mieux pour la planète. Comme ça, on reçoit moins de papier. Moi, j'ouvre la porte de mon parking avec une application, par exemple, j'ai même pas la clé. Donc comment on fait pour se désintoxiquer de tout ça?
Je pense que le numérique, c'est une simplification, mais de facto, on va être de plus en plus numérisé. Nous n'en sommes qu'au début de la révolution Internet. En 2021, en fait, nous en sommes au balbutiement quand on voit toutes ces technologies numériques qui nous attendent à l'image de l'Internet des objets et même de l'Internet de tout, où on va tout connecter. Donc en réalité, la notion de sobriété numérique ou la notion de décroissance des usages numériques, elle est tout simplement impossible à mettre en pratique. Nous n'allons que faire que consommer davantage de ces outils. Tout sera toujours plus dans ce monde, dans cette infrastructure. Et donc non, je ne crois pas qu'on va être capable de se désintoxiquer, comme vous dites, de cela. Bien au contraire, d'où la raison pour laquelle je pense qu'il faut un moment aller voir cette infrastructure, la toucher, la goûter, la sentir, parce qu'en fait on peut se confronter sensoriellement à elle pour au moins comprendre de quoi elle qu'est-ce qu'elle recèle comme matière, comme énergie, et du coup peut-être mieux consommer Internet de façon plus sage.
Par exemple, pour la toucher, il suffirait de rentrer dans un data center, par exemple.
Absolument.
On sait tous que c'est, sans savoir ce que c'est, en fait, on sait qu'il y a des immeubles dans toutes les villes de France, il y en a à Paris, il y en a partout. On sait qu'il y a des, on se dit il y a quoi là-dedans, il y a des grands ordinateurs, mais c'est quoi un data center? Parce que là, pour le coup, on touche du doigt ce qu'on actionne avec notre téléphone et autre chose.
Quand j'envoie un like sur votre profil Twitter, par exemple, Fabienne Sintès, en réalité, le like, il va pas à votre téléphone, il passe donc par un data center, c'est-à-dire un centre de données dans lequel sont stockées toutes nos données, et notamment tous ces likes, tous ces emails, toutes ces photos de vacances, ces vidéos de chat. Ces data centers, on en trouve partout. Et en fait, on est passé, vous et moi, des dizaines, des centaines de fois devant ces entrepôts sans savoir qu'ils existaient, parce qu'on en trouve même, puisque nous sommes à Paris à l'instant où je vous parle, dans le centre de Paris, dans le quartier du Marais par exemple, et puis on en trouve de plus en plus dans les banlieues des grandes villes et notamment à la Plaine Commune, dans le nord de Paris. Chaque jour qui passe, je suis susceptible d'utiliser une centaine de ces infrastructures-là. Et comme ces infrastructures sont absolument vitales pour faire tourner Internet en permanence, eh bien en fait, et comme on ne peut pas éteindre Internet parce que je suis trop pressé, je suis trop pressé de liker et je ne peux pas attendre que la page de mon compte Facebook, de mon compte Twitter, prenne plus d'une seconde à se télécharger. Et donc en fait, il faut que ces data centers, ces centres de données soient redondés. Donc s'il y en a un qui tombe en panne, il y en a automatiquement un qui prend le relais, et ainsi de suite. Et alors figurez-vous que j'ai appris hier que mon 06, mon téléphone portable, était probablement stocké 1200 fois sur Terre. Donc en fait, tout ça permet en fait d'avoir une infrastructure qui fonctionne en permanence, qui soit hyper disponible, qui m'obéisse au doigt et à l'œil, parce que je n'ai pas le temps d'attendre.
Et donc ça, c'est vrai, vous le dites, il faudrait le toucher du doigt, et pourtant on a l'impression que toutes les GAFAM et autres, mais pas seulement, parce qu'on se vautre aussi nous aussi dedans, vous dites d'ailleurs qu'ils ont organisé l'invisibilité de tout ce qu'il y a autour.
Absolument. Alors le data center, donc si on rentre dedans, puisque c'était votre question aussi, bah, on peut le voir, on peut rentrer dedans, on rentre pas comme dans un moulin naturellement. Quand on rentre dedans, moi je suis rentré dans un data center en Laponie suédoise, il émet un son très strident, comme une espèce de grande ruche, parce que chaque serveur émet un sifflement, il y en a des milliers. Simplement, c'est pas facile de les voir et c'est pas facile de prendre conscience de cette infrastructure, parce qu'on ne les voit pas, et parce que ce que j'ai réalisé en Suède, en trouvant en Suède où Facebook a installé nos comptes Facebook, parce qu'en fait mon compte Facebook et mes amis Facebook se trouvent en fait sous des mètres de poudreuse au fin fond de la Laponie, eh bien c'est que Facebook se rend complètement invisible, cherche à se rendre extrêmement discret. Facebook est partout visible sur la toile, paradoxalement visible nulle part dans le monde physique. Facebook agit derrière une société, une filiale qui s'appelle Pinnacle Sweden. Donc comment peut-on savoir que c'est Facebook? Et finalement, eh bien en fait, l'industrie, et j'ai vu ça aussi pour Amazon, organise son insolvabilité physique. Elle se rend intouchable au sens propre du terme, et donc du coup, intouchable au sens figuré du terme. On ne peut pas la critiquer puisqu'elle n'existe pas.
Et en même temps, est-ce qu'on a vraiment envie de savoir? Je me souviens qu'on s'est posé la même question au sujet de l'extraction des métaux rares, par exemple. On n'a pas envie de savoir comment ça se passe en Chine dans des conditions épouvantables. On n'a pas envie de savoir ce que ça coûte, ce like, y compris pour la planète.
Et d'ailleurs, on ne le sait pas, figurez-vous. C'est-à-dire qu'on parle d'intelligence artificielle, d'apprentissage profond, il est question d'informatique quantique, et en fait, paradoxalement, personne ne sait précisément le coût d'un like ou d'un email, parce que peut-être qu'effectivement, le coût additionné par le milliard de likes chaque jour que nous envoyons est probablement colossal, certainement.
Vous dites qu'un SMS, ça pèse physiquement, ça pèse presque un kilo, mais qu'est-ce qu'il y a dans ce kilo de ce SMS?
Oui, je crois que ça pèse 600 et quelques grammes.
C'est ça, 0,6 quelque chose.
Voilà. En fait, concrètement, C'est-à-dire qu'il y a des ingénieurs, notamment en Allemagne, dans un institut qu'on appelle le Wuppertal Institute, qui en fait cherchent à peser réellement le poids de tous les objets qui nous entourent, pas seulement le poids fini, mais toute la matière qui a été mobilisée pour faire cet objet. Et ça vaut aussi pour un service numérique. Et donc, si je prends un SMS, il me faut un téléphone portable, il faut donc tous ces câbles, il faut toute cette infrastructure dont on a parlé. Donc si on divise le poids total de cette infrastructure par les SMS et les likes qui sont envoyés, eh bien en fait, on arrive selon le Wuppertal à un coût qui est absolument... enfin, qui laisse complètement interloqué, c'est-à-dire qu'un SMS coûterait environ 600 grammes de matière, en incluant l'énergie, naturellement, qu'il a fallu produire pour l'envoyer. Et donc, nos vies virtuelles sont tous virtuelles, bien évidemment.
Et est-ce qu'on se dit à terme, alors, parce qu'il faudra bien trouver peut-être une solution, d'abord parce qu'on va épuiser les matières et aussi parce qu'on va épuiser notre énergie, est-ce qu'on se dit qu'il faut réserver certaines choses à certains usages, par exemple? Je pense à la 5G particulièrement, qui est très énergivore. Est-ce qu'il faut se dire, on réserve la 5G à certains usages? Est-ce que ça veut dire, à terme, qu'on paye le SMS, le prix qu'il pèse aussi? Est-ce qu'on peut arriver vers ça, au fond, d'ici, j'en sais rien, moi, 5 ans, 10 ans?
La 5G, Fabienne Sintès, elle n'est ni bonne ni mauvaise, elle est ce qu'on en fera. Si on l'utilise pour l'hôpital connecté, c'est peut-être une très bonne chose. Si on l'utilise pour parier en ligne grâce aux crypto-monnaies, le grand loto géant aujourd'hui qu'on appelle les crypto-monnaies, peut-être que son usage est moins intéressant. Donc à quoi est-ce que nous utiliserons la 5G? Et tout d'un coup se pose la question du bon internet versus du moins bon internet. Et il y a des questions sociales, politiques énormes qui se posent derrière tout ça. La preuve qu'internet, c'est pas juste une affaire de technique. Et puis internet, c'est gratuit. Ah oui, forcément, j'envoie quasiment toutes mes données de façon gratuite. Je peux regarder une vidéo de chat 10 fois, 15 fois. Elle coûtera, de toute façon, elle me coûtera rien puisque mon forfait est illimité. Et là, je pense que ça inscrit et se réinsère la notion du coût. Si nous payons réellement pour Internet, si nous considérons que c'est un service payant, et de fait il l'est, mais simplement on a l'impression que c'est gratuit parce qu'on donne nos données en échange de quelque chose qui est censément gratuit, alors tout d'un coup, la limite, elle va être fixée par notre portefeuille, par notre capacité d'achat. Et donc moi, je pense qu'à un moment, devrait se poser cette question de ce coût que l'on ne voit pas et que pourtant quelqu'un paye quelque part, de façon à mieux raisonner nos usages d'Internet. Je crois que c'est une question qui va advenir, peut-être pas à court terme, mais à moyen terme ou à long terme, c'est une question à laquelle nous allons devoir faire face.
Et en même temps, du coup, on se dit, mais alors qu'est-ce qu'on va faire avec les smart cities qui sont en train d'éclore un peu partout? Qu'est-ce qu'on fait avec des pays entiers? Vous citez l'Estonie, par exemple, qui est numérisée de la tête et des épaules. On fait tout avec son téléphone portable dans ces pays-là. C'était d'ailleurs à la base une idée qui était très très vertueuse, sortant du bloc soviétique. Tout doit devenir transparent. Donc là, voilà la transparence. Qu'est-ce qu'on fait avec ces pays-là, du coup? Est-ce qu'ils peuvent revenir en arrière? Est-ce qu'ils devront revenir en arrière?
Il n'y aura pas de retour en arrière, Fabienne Sintès. Encore une fois, l'Internet ne fait que commencer. Et nous sommes au début d'une révolution absolument colossale de nos vies par le numérique, où nous allons produire toujours plus de données pour lesquelles il y aura toujours plus de téléphones portables. Donc, en fait, nous sommes lancés dans une course folle portée par cette transition numérique qui permet aussi de la croissance. Donc, je crois pas qu'on revienne en arrière. En revanche, d'abord, je pense qu'il faut avoir conscience de ce qui nous arrive. C'est-à-dire qu'on parle d'une pollution qu'on n'a jamais vraiment calculée, qu'on n'a pas sentie, d'où la raison pour laquelle moi, personnellement, j'ai essayé de sentir Internet, de goûter Internet, de toucher Internet. Ouais. Parce que je pense que c'est important de confronter se confronter sensoriellement à la machine. Donc je pense que déjà, comment est-ce qu'on s'éduque à cela? Et puis après, je pense qu'on peut agir très concrètement, et il faut quand même donner de l'espoir, et je donne plein de solutions, on peut agir très concrètement sur les interfaces, les téléphones portables, les ordinateurs, les tablettes, c'est la moitié de la pollution d'Internet. Or, comme vous le savez, on adore changer de téléphone portable, obsolescence culturelle, quelquefois on est forcé d'en changer parce que la batterie ne se décolle pas, obsolescence technique.
Ou parce que certaines applications ne fonctionnent plus sur une version qui est trop vieille.
Obsolescence logiciel.
Exactement.
Comment on lutte contre ça et comment on fait en sorte de rallonger la durée de vie des produits? Et ça, c'est une immense bataille face à laquelle nous avons des entreprises qui, bien évidemment, cherchent à faire tourner le parc de ces équipements le plus vite possible. 34 milliards d'équipements sur Terre aujourd'hui, et face à laquelle il va falloir que les citoyens se réveillent, le consommateur se réveille. Moi, j'ai un iPhone 7 que j'ai déjà réparé 4 fois.
Vous soulignez ce paradoxe et il est intéressant parce qu'on verra comment cette génération va s'emparer de ce problème-là, elle devra finir par s'en emparer. Tout ce que vous appelez la génération Greta Thunberg, qui est très très bien plus au courant que nous sur les problèmes d'écologie, qui est bien plus agressive que nous avons même pu l'être quand nous avions 20 ans sur d'autres problématiques. Tous ces gamins-là sont hyper connectés les uns avec les autres. Est-ce que là aussi, en fait, ils ne savent pas parce qu'ils n'ont pas été cherchés, parce qu'on leur a pas mis devant les yeux, ou est-ce que là aussi ils préfèrent ne pas voir, parce que qu'est-ce qui est plus facile que de d'envoyer une chaîne sur internet pour se retrouver ensuite pour une manif ou pour autre chose?
Je pense qu'il y a les deux. Il y a probablement un manque de connaissances, et moi-même j'étais très ignorant du sujet avant de me lancer dans cette enquête. Et puis quand j'entends le chiffre que un jeune en France de 18 à 25 ans a déjà eu entre les mains 5 téléphones portables et en est à son 6e, je pense qu'il n'y a pas qu'une question de savoir ne pas savoir, il y a une question de vouloir savoir. Et je pense que cette génération est à la fois extrêmement, et je l'admire d'ailleurs, et j'admire Greta, très au fait de ces enjeux écologiques, et en même temps se retrouve entre les mains avec un outil qui fait de chacun des jeunes aujourd'hui un demi-dieu, et ça excite en lui aussi une vanité. Et donc la merveille de cette technologie qui est le hashtag, elle permet tout à la fois de mettre dans la rue le vendredi des centaines de milliers de jeunes pour lutter contre le changement climatique, pardon, et puis en même temps, eh bien, elle va exciter un hubris. Et qu'est-ce que la génération Greta fera-t-elle de ces technologies? Est-ce que cette génération Greta sera réellement, je pose la question, la génération climat?
Eh ben, c'est une vraie bonne question qui calcule notre empreinte carbone sur l'avion que l'on prend, mais qui ne calcule pas notre empreinte carbone sur l'email que l'on envoie.
Absolument. Et tous les réseaux sociaux dont cette génération est friande.
Eh ben, écoutez, en attendant, pour nous, ne changeons pas nos téléphones, taxons les vidéos de chats, moi je suis d'accord avec ça. Guillaume Pitron, ça s'appelle L'Enfer numérique. Voyage au bout d'un like, c'est publié aux éditions des Liens qui libèrent. Merci vraiment, à très bientôt.
Le 18-20, Fabienne Synthès, sur France Inter.
La suite ce soir, c'est Sous les radars avec les barbus d'Italie. Rien à voir avec des hipsters chez le barbier. On parle de vin et nous sommes donc en Italie, sous les radars. Et Sébastien Logeni.
À Istanbul, les jeunes étudiants ne peuvent plus se loger et dorment dans les parcs pour protester.
Le cinéma en VO et en vert ce soir avec une série de documentaires écolo qui sortent. Ce sera avec Corinne Pellissier. Des documentaires d'ailleurs qui ne parlent pas de voracité écologique du numérique. Le monde d'après, c'est vous Claude Guibal, bonsoir.
Bonsoir, et nous on ira en Afghanistan où s'envole, eh bien quoi, le prix de l'opium depuis la prise de pouvoir des talibans.
Allez, à tout de suite tout le monde. Le tour de la planète n'est pas fini. Il passe par Brooklyn, États-Unis. Dark Side, Lawmaker sur France Inter. He's wearing the doctor's coat, but in his hand is the ring of a lawmaker. He's wearing a doctor's coat, but in his hand is the ring of a lawmaker. He's got the cures we need. People rejoice and laugh. They say how hard it's been and how easy it'll be. He's wearing the doctor's coat, but in his hand is the ring.
Solution, loves it up against the sun, a silly kind of revolution. The red glow in his face, making him look like the son of God. His teeth are glistening, his hair is wild, his feet are stomping on the ground. He's wearing a doctor's coat, holding his hand as though he were a lawmaker. He's wearing a doctor's coat, holding his hand as though he were a lawmaker.
Le bruit du monde, ce soir, est en Italie, l'autre pays du vin, comme chacun sait, en cette période de vendange. Les Italiens sont les premiers producteurs de vin au monde, en volume, mais ce qu'on sait moins, c'est qu'ils sont à l'origine du vin, parce qu'ils produisent les barbus, ces plantes de vigne avec leurs racines qui ressemblent à une sorte de barbe, et que l'on plante pour obtenir ensuite, évidemment, de la vigne et du vin. Le reste, c'est Bruce de Galzin qui raconte.
De Venise, la cité lagunaire, il faut prendre un vaporetto et larguer les amarres que l'on entend pour rejoindre Sant'Erasmo, le jardin de Venise, une autre île de la lagune, où nous retrouvons un Français, Michel Toulouse, qui fait du vin après avoir acheté un drôle de terrain il y a plus de 20 ans.
Je trouve une vieille carte de la lagune de 1700 et sur ce même terrain, il y avait écrit « Vitigno del nobile uomo », le vignoble du noble homme. Et donc j'appelle des amis en Bourgogne, on a préparé le terrain. Et puis à un moment, il a fallu planter des vignes.
Ces vignes, elles donnent sur la lagune, autour d'une maison en pierre rouge, un endroit idyllique. Mais avant d'en arriver là, Michel Toulouse a dû créer son vin. Il a pris sa voiture, direction le village de Raochedo, à un peu plus d'une heure de chez lui, dans le Frioul.
À quelques kilomètres de Venise, tu as le plus grand pépiniériste d'Europe, du monde d'ailleurs. Et ils ont un truc incroyable, c'est qu'ils ont planté sur 300 hectares tous les types de vignes et tous leurs clones, et ils font des micro-vinifications. Vous rentrez dans une pièce qui ressemble à une bibliothèque, tout est en bois, magnifique, silence, et là vous avez des bouteilles d'un demi-litre, dans le verre on mettait un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça, et puis finalement on a trouvé notre assemblage.
Et c'est donc là qu'est né l'Orto di Venezia, le vin blanc de Venise que produit un Français. Avant de le goûter, il a donc fallu l'inventer. Alors nous sommes allés, nous aussi, dans le village de Raochedo et ses 1000 habitants, qui pratiquement tous sont liés de près à la coopérative. Massimo De Candido, le responsable de la vinification, nous amène dans la cave de la coopérative où il a procédé à pas moins de 900 micro-vinifications. Ici, tout est plus minutieux. Cela permet de tester, de découvrir, de créer.
Les raisins rouges sont travaillés de manière traditionnelle. Les grappes sont récoltées, pesées pour connaître leur future productivité, puis pressées dans cette machine qu'on entend. Il y a ensuite la fermentation alcoolique qui dure environ une semaine, puis il y a la phase de filtrage et la mise en bouteille avant le printemps prochain. Le vin peut alors être dégusté, évalué par nos clients, par des œnologues ou même par des commissions si nous voulons l'inscrire au catalogue des nouveaux clones ou variétés.
Mais cela après des mois, des années, quelquefois de recherches poussées dans des laboratoires ultra sophistiqués. La coopérative va inaugurer vendredi un tout nouveau centre de recherche et développement qui lui a coûté 6 millions d'euros. Et c'est la spécificité de cette pépinière. Elle ne vend pas seulement des plants de vigne depuis 1920, mais elle fait de la sélection depuis 1965 et désormais crée des variétés. La directrice du centre de recherche et développement, Elisa De Luca.
Nous sommes en train de développer le projet NeoSwine avec l'Institut de génomique appliquée de Udine. On utilise des technologies d'évolution assistée pour modifier de manière très précise l'ADN d'une variété et obtenir une meilleure variété. Le patrimoine génétique n'est pas modifié, nous faisons comme la nature qui, pour évoluer, mute. Nous apportons de petites modifications tout en préservant le patrimoine génétique de la plante.
On obtient ainsi des variétés résistantes aux maladies, aux conditions climatiques également. Et là, les pépiniéristes sont aux premières loges pour mesurer et anticiper ce changement climatique. Car ils vendent des plants de vigne qui vont donner du vin pendant 30 voire 50 ans. Exemple frappant, La coopérative vend de plus en plus au nord du monde et Eugenio Sartori en est le directeur général depuis 35 ans.
On a déjà une demande intéressante en Belgique, en Danemark et en Suède. En Suède, par exemple, dans une petite île, il y a des viticulteurs. Ils ont déjà planté des variétés résistantes aux maladies. J'avais quelques doutes parce que j'ai dit, bon, en Suède, quel vin il va faire et tout ça. Ils ont dit qu'ils sont très contents des résultats.
En Italie, en Espagne, en France, la donne change. Entre gelée tardive et sécheresse, il faut des variétés plus résistantes. La coopérative de Rauchedo est à la pointe dans ce domaine. Elle est l'exemple très italien de ces PME numéro 1 mondial dans leur secteur. À elle seule, elle vend chaque année dans le monde entier près de 80 millions de plants de vignes, l'équivalent de 20 000 hectares. C'est 4 fois la superficie plantée du Médoc, plus de la moitié du Champagne.
Et nous voilà prévenus, Bruce de Galzin, pour le reportage. Merci beaucoup, Bruce. Le bruit du monde, la suite, c'est toute l'actualité internationale passée sous les radars. Et c'est Sébastien Logénie. Sébastien, nous sommes dans les rues d'Istanbul, où les parcs sont occupés toutes les nuits par des étudiants en galère de logement.
C'est un mouvement de protestation encore naissant, Fabienne, rien à voir avec les rassemblements massifs de 2013 du parc Gezi. On s'en souvient, une sorte de printemps turc, où des centaines de milliers de personnes étaient descendues alors dans la rue contre le régime. Là, il ne s'agit que de quelques centaines de manifestants, mais ils récupèrent les mêmes symboles qu'à l'époque, et notamment l'occupation des parcs. Chaque nuit, donc, de jeunes étudiants prennent leur quartier dans les jardins publics. Leur mouvement a un nom, Barina Miyoruz, nous ne pouvons pas nous loger. Il dénonce le manque cruel de logements étudiants en Turquie et l'augmentation des loyers vertigineuse. La Turquie détient en effet le record du monde de hausse des prix de l'immobilier pour cette année, près de 30% de plus par rapport à l'an dernier. Une flambée due à la crise sanitaire, l'inflation, une pression immobilière aussi énorme, surtout depuis que le pouvoir, afin d'attirer les investissements, a permis aux riches étrangers d'acquérir la nationalité turque s'ils achètent un bien à plus de 200 000 euros. Bref, les étudiants ne trouvent plus à se loger correctement et ils le disent sur les réseaux sociaux depuis des semaines. Cet étudiant de Marmara, par exemple, ne parvient plus à payer tout seul son loyer depuis que son colocataire est parti. Avant la pandémie, il recevait de l'aide de sa famille, mais le commerce de son père a fait faillite et il doit se débrouiller seul en travaillant. Parfois, il doit héberger même des amis sans domicile fixe. Pour le moment, ce mouvement reste très urbain. Le fait seulement de la jeunesse, mais le régime du très autoritaire Recep Tayyip Erdogan le surveille comme le lait sur le feu. Les étudiants sont régulièrement délogés manu militari par la police et les premières arrestations ont commencé. 50 étudiants en garde à vue pour avoir refusé de quitter leur parc.
Il se battait sur les rings, il va désormais descendre dans l'arène politique.
On vous en a déjà parlé de lui sur l'antenne d'Inter. Manny Pacquiao, alias Pac-Man, un célèbre boxeur philippin au palmarès légendaire. Eh bien, c'est officiel depuis ce matin, il met fin à sa carrière sportive, il range les gants. Manny Pacquiao a fait cette annonce dans une vidéo de 15 minutes sur Facebook qui retrace toute sa vie de boxeur. 25 ans à combattre du haut de ses 1m66 et 66 kilos, un poids plume, à la longévité et au parcours extraordinaire. Né dans l'extrême pauvreté il y a 42 ans, il est aujourd'hui à la tête d'une fortune estimée à 500 millions d'euros. Dans son pays, c'est une star, un demi-dieu tellement populaire qu'il a désormais une autre idée en tête, devenir le prochain président des Philippines. Manny Pacquiao est candidat donc à la présidentielle qui aura lieu l'an prochain. Il l'a officialisé il y a 10 jours et il sera opposé à la fille du non moins populaire Rodrigo Duterte. Pacquiao a longuement soutenu Duterte et sa guerre très controversée contre la drogue. Comme lui, il est favorable à la peine de mort, hostile à l'homosexualité. Il fait de la politique depuis 10 ans, député puis sénateur, mais ses compétences sont régulièrement critiquées. Alors à tous ceux qui lui demandent quelles sont ses aptitudes, il fait la même réponse. Est-ce que vous avez déjà souffert de la faim? Tout un programme.
Allez, on termine au Bangladesh avec un animal sacré.
La vache, Fabienne, la vache vénérée dans tout le sous-continent indien, on le sait, eh bien, une vache bangladeshi vient de recevoir un sacrement supplémentaire, celui du Guinness Book. Rani, c'est son nom, est morte malheureusement il y a quelques semaines, mais elle va entrer quand même dans le livre Guinness des records comme la vache la plus petite du monde, 51 cm de hauteur, à peine plus haute qu'un coq, et 26 kilos. Rani aura connu un poids plume là aussi. Rani aura connu un court instant de célébrité l'été dernier, quand son propriétaire a vu débarquer des milliers de personnes et de médias du monde entier, malgré la crise sanitaire. Plus d'une centaine de chaînes de télé et de blogueurs sont venus ici, dans ce petit village près de Dhaka, et 15 000 personnes de tout le Bangladesh leur ont rendu visite dans cette ferme. Voilà, Rani n'aura vécu que deux ans, mais oui, le Big Guinness des Book, pardon, il est là quand même pour l'immortaliser. Son propriétaire, il faut le savoir, ne touche pas un centime là-dessus. Le Guinness, c'est pour la gloire, il faut même payer soi-même le diplôme d'authentification. Ça coûte 30 euros, si vous voulez le savoir.
Mais écoutez, vous m'avez montré sur Internet cette vache et la pauvre.
Ouais, un peu pauvrette. Pas très envie.
Non, ouais. Pas tellement. On se demande si elle faisait du lait dans un dé à coudre. En fait, pauvrette. À demain, vous repartez avec un autre gabarit. Tiens, Big Mama Santon, Hound Dog, c'est sur France Inter. Dog sur France Inter. Allez, partons pour Hollywood.
France Inter. Un jour dans le monde.
So, we start.
People always tell us that young people are going to save the world. But there is simply not enough time to wait.
The fallout from climate change. The impacts could be catastrophic.
All of this with the global warming, it's a hoax.
It is the most pressing issue of our time.
Vous avez reconnu sa voix, forcément. Dans la foulée du grand concert pour la planète, en attendant le mois prochain, le rendez-vous de la COP26 à Glasgow, le cinéma en VO du mercredi passe au vert avec profusion de sorties pour répondre à l'urgence climatique. Corinne Pellissier, bonsoir.
Bonjour Fabienne.
Pas moins de 4 documentaires, Corinne, qui débarquent en même temps. Donc le portrait, c'est ce qu'on entendait de Greta Thunberg. Leonardo DiCaprio dans un projet de thriller écolo vert et tapis rouge, ou encore Marion Cotillard en productrice de films. C'est pas un hasard, le filon n'est pas prêt de s'épuiser.
Ce qui relevait jusqu'à présent d'une exception est en train en fait de devenir un genre à part entière, avec un vrai succès de box-office. Mélanie Laurent, Cyril Dion, qui avaient réuni en 2015 un million de spectateurs autour de leur film Demain, il était resté pendant 35 semaines à l'affiche. Avant eux, il y avait eu Al Gore et sa vérité qui dérange, des précurseurs d'un nouveau genre, l'urgence climatique, qui trouve un écho aujourd'hui dans de nouvelles pratiques. De plus en plus, on recycle les décors, on réduit les bilans carbone, on organise des sections green dans les festivals avec des films militant introspectif autour de l'environnement, du climat, pour essayer de séduire un public plus large. Prenez par exemple ce documentaire de Luc Maresco, Poumon vert et tapis rouge, qui sort aujourd'hui pour ratisser un peu plus large que les défenseurs de la forêt amazonienne. Eh bien, il a imaginé une sorte de thriller écolo avec Leonardo DiCaprio. Le film ne verra jamais le jour. Mais l'idée, c'était plutôt de sensibiliser le grand public, l'amener à réfléchir aux enjeux de la déforestation, du climat, à travers ce documentaire en forme de making-of.
J'imagine un blockbuster, un thriller écologique qui donne envie d'agir.
Alors, on parlait de Greta Thunberg tout à l'heure. Corinne, elle n'est pas toute seule. Il y a aussi Mélanie, Marie, Mohamed, Memory ou encore Oustieka. Ils sont 7 à mener des actions spectaculaires partout dans le monde. Et leur portrait est à découvrir dans un documentaire qui s'appelle Bigger Than Us. Et c'est produit là par Marion Cotillard.
How many of you have felt that you have a really good idea? I believe that there were a lot more good ideas in this room. So imagine this is you.
Voilà 7 jeunes du monde entier qui se mobilisent au Malawi, au Liban, dans le Colorado pour lutter contre la pollution des mers, contre le réchauffement climatique, l'épuisement des ressources, favoriser aussi l'accès à l'éducation, réclamer plus de justice sociale. Tout est parti il y a 6 ans du combat d'une jeune fille qui s'appelle Melati contre les déchets plastiques en Indonésie. À l'époque, elle avait 13 ans. Depuis, elle a rencontré plus de 50 000 jeunes, formulé une proposition aussi à la tribune de l'ONU, suscité des vocations. Marie, par exemple, sur l'île de Lesbos, engagée dans une grande chaîne de solidarité pour porter secours aux réfugiés en mer. Elle a 22 ans et elle veut que sa voix compte.
It's just heartbreaking to see.
Ça me brise le cœur de voir tout ce que les gouvernements pourraient faire pour améliorer le sort des gens, les traiter avec respect et dignité. Au lieu de ça, ils détournent le regard et se comportent de manière égoïste, toujours l'économie qui prime. La situation ne se mesure pas à des gros titres dans les journaux. On parle ici de la vie de vrais gens. Voilà ce que je veux dénoncer, en témoignant de ce que j'ai vu et de mon expérience. Je voudrais aussi que ça inspire d'autres jeunes, car la solution passe par nous. Et les choses ne sont pas parties pour s'améliorer. On doit se faire entendre maintenant.
But yeah, it's scary. I'm really terrified for my own future, but also for the future of the.
Mais c'est vrai que tout cela est effrayant. Moi, je suis terrifiée à l'idée, par exemple, d'avoir des enfants, et je ne suis pas la seule. Beaucoup de mes amis se disent la même chose. Quel monde on va bien pouvoir leur laisser?
It's scary.
On compte aujourd'hui 80 millions de réfugiés dans le monde. En 2050, on estime qu'ils seront 200 millions à cause du climat, des guerres, du manque d'eau, du manque de nourriture, à cause aussi de la pollution. Toutes ces questions autour de l'environnement sont interconnectées, nous disent ces jeunes qui veulent nous inciter à agir.
Et pour que le message passe, 5 sur 5, 100 000 places de cinéma ont été réservées gratuitement pour les 18-25 ans via le hashtag « Ça commence avec toi ». Le documentaire s'appelle « Bigger Than Us », réalisé par Flore Vasseur, produit par Marion Cotillard. Et merci Corinne Pellissier, à la semaine prochaine.
Fabienne Synthès, le 18-20.
Le monde d'après de Claude Guibal ce soir. Claude, avec un effet inattendu de la prise de pouvoir des talibans, le prix de l'opium flambe.
Il plombe pas qu'un peu, Fabienne. Ces derniers jours, sur les marchés du sud de l'Afghanistan, eh bien, les petits producteurs vendent leurs kilos de résine non transformée à parfois plus de 125 euros le kilo. C'est-à-dire 3 fois plus que les prix qu'on pratiquait encore il y a quelques mois, juste avant la prise de pouvoir des talibans. Et une fois transformée en héroïne dans les labos clandestins d'Afghanistan, d'Iran, du Pakistan, cette drogue bat donc des records de prix ces jours-ci. Et la raison de cette flambée, Fabienne, c'est tout simplement le risque de pénurie. Parce que personne n'oublie qu'en 2000, lors de la précédente prise de pouvoir des talibans, leur chef, Mollah Omar, avait émis une fatwa interdisant la culture de pavot dans le pays. Une injonction divine qui avait été accompagnée de peines de prison et la production de fait avait vraiment chuté.
Mais alors, l'Afghanistan, Claude Cohen, reste le premier producteur mondial d'héroïne, non ?
Oui, 85% de la production mondiale, ça c'était l'an dernier. Et en fait, comme le raconte un passionnant article de The Conversation, que je vous invite vraiment à aller lire, la culture du pavot en Afghanistan a pris son essor dans les années 80. Alors on va faire un petit flashback. À l'époque, l'Union soviétique a envahi l'Afghanistan, les seigneurs de guerre, les moudjahidines, se battent donc contre les soldats de l'armée rouge, et pour financer leur lutte, ils se mettent à encourager dans leur province la production d'opium. Alors il faut très très peu d'eau pour cultiver du pavot, c'est donc la culture parfaite dans ces zones qui sont vraiment ravagées par la guerre, toutes les infrastructures hydrauliques sont détruites, le trafic donc prospère, et bien sûr les alliés des seigneurs de guerre, à commencer par les États-Unis, eh bien ont laissé faire en se disant que finalement c'était un moindre mal.
Alors pourtant, quand les États-Unis ont attaqué l'Afghanistan donc en 2001 au nom de la lutte antiterroriste, ils décrivaient les talibans comme de gros narcotrafiquants.
Oui, en fait c'était pas vraiment le cas, hein, Fabienne, en vrai, puisque comme je vous le disais, sous les talibans, la production avait quand même baissé. Mais le fait est qu'après l'arrivée des Américains, la culture du pavot s'est mise à flamber de plus belle parce que, en fait, tout le monde s'y est mis. Les anciens chefs de guerre qui étaient parvenus au pouvoir ont continué à profiter de la culture du pavot et les talibans, en conquérant les provinces, eh bien, eux se sont mis à imposer des taxes aux producteurs pour financer leur propre guérilla. Alors, il faut dire que c'est difficile de se passer d'une telle poule aux œufs d'or. Le trafic d'opium, c'est grosso modo 20 à 30% du PIB de l'Afghanistan. Ça génère en gros 2 milliards d'euros par an. Or, dans un pays détruit, sans infrastructure, en proie à une énorme pauvreté, évidemment, c'est difficile de se priver d'une telle source de revenus. Et puis surtout, comment générer d'autres sources de richesses.
Et oui, et pourtant, il y a eu beaucoup d'argent investi dans la lutte contre la drogue ces 20 dernières années.
C'est vrai, les Américains ont dépensé des milliards de dollars qui ont était englouti par la corruption, il faut le dire. On a bien sûr rasé des champs, fait des opérations coup de poing, bombardé des laboratoires de transformation de l'opium. Mais en fait, personne en Afghanistan ne veut vraiment éradiquer ce marché tellement rémunérateur qui remplit les poches, corruption aidant, d'à peu près tous les notables du pays, de quelque bord qu'il soit. Un marché qui permet aussi, évidemment, la survie de dizaines de milliers de paysans. Et ça, les talibans ne l'ignorent pas et ils s'en servent pour faire pression pour parvenir à leur fin. Ils ont ainsi promis qu'avec eux, l'Afghanistan ne produirait plus de stupéfiants, mais pour cela, disent-ils, eh bien, ils vont avoir besoin de l'aide pour compenser les pertes des paysans, cette aide internationale qu'ils cherchent absolument à obtenir pour avoir de quoi rester au pouvoir sans risquer la révolte d'une population exsangue.
Merci beaucoup Claude Guibal. Le Monde d'après, c'est tous les soirs dans Un jour dans le monde. La suite, c'est le 19h d'Hélène Philly, juste après le téléphone sonne. Merci de passer la soirée avec nous.